Oui, Seigneur Père éternel,
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et ta bénédiction. Seigneur, nous savons que la plus grande bénédiction que tu puisses accorder à une nation ou à un peuple, c'est de lui donner le véritable prédicateur de l'Évangile. Comme Paul le mentionne, Seigneur, il dit qu'il est fidèle. Cette fidélité, Seigneur, nous voudrons que ce soit parmi nous et que le message que nous devons entendre soit réellement fidèlement prêché. Et que cela soit véritablement une bénédiction pour nous. Seigneur, merci. Tous ceux qui écoutent cette parole à travers l'Internet, à travers Skype, Seigneur, nous te prions de disposer leur cœur et faire en sorte que cette étude soit véritablement ancrée dans le cœur et ça touche le cœur. Afin que les enfants soient véritablement à la repentance et que les élus soient sauvés. Je vous en remercie. Amen.
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 Alors, il y a du bruit là.
Oui, il y a du bruit. Il faut couper le micro.
Oui, il y a du bruit là, mon Dieu. Je vous le dis.
Il faut couper le micro.
Ok. Ok. Recommençant dans le verset 16, ici nous voyons la miséricorde gracieuse ou on peut dire même étonnante qui est exercée envers quelqu'un comme l'apôtre Paul, mais pas seulement envers lui, parce que lui-même il dit là qu'il son exemple se sert, c'est écrit, à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et on peut dire pas la vie éternelle, parce que personne ne pourrait croire si ce n'est par la vie éternelle déjà donnée ou bien mise en lui. Dans Jean chapitre 5, si vous voulez regarder là pour un moment, Jean chapitre 5 et le verset 24. Ça, c'est un verset que le monde religieux aime citer souvent pour dire que il faut que l'homme lui-même croie d'abord afin d'avoir la vie éternelle. Combien de fois nous avons entendu le message bouleversé comme ça, disant il faut croire d'abord et puis ensuite Dieu te donne la vie éternelle. Mais si l'homme peut croire sans avoir d'abord la vie de Dieu en lui, donc il n'aurait pas besoin de la vie. Parce qu'il est capable de faire quelque chose à part la vie. Tu crois, alors si tu crois, tu as déjà la vie. Mais ici dans Jean 5 et le verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, notez bien, ça ne dit pas aura la vie éternelle, mais a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé. Et dans l'original, est passé signifie déjà passé de la mort à la vie. Cela veut dire spirituellement. Alors, comment est-ce que nous pouvons savoir ceux qui ont la vie éternelle? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Ici, c'est écrit qu'ils entendent, ils écoutent la parole. Cela veut dire qu'ils entendent la parole. Dieu leur donne des oreilles pour entendre. Et ils croient. Mais notez bien. Ce n'est pas seulement croire à un système de doctrine. Ce n'est pas croire à des doctrines de la grâce, comme on entend certains dire. Je crois aux doctrines plurielles de la grâce. Le mot doctrine dans la Bible est toujours au singulier. C'est la doctrine de Christ. C'est la doctrine du salut. C'est la doctrine du salut. De la grâce, vous voyez? Alors, mais c'est la personne de Christ qui est la doctrine. c'est son œuvre, parce que c'est écrit et qui croit à celui qui m'a envoyé. Cela veut dire, la vraie croyance, c'est de connaître Dieu tel qu'il est, révélé dans cette parole. Cette parole est inspirée par l'Esprit et concerne le Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui à qui la vie est donnée, croit à celui qui a envoyé Jésus-Christ. Et si quelqu'un croit à celui qui a envoyé Jésus-Christ, il croit à Christ. Alors ça, c'est important de reconnaître que la conversion de Paul, qu'il décrit ici dans le verset 16 de 1 Timothée, c'est une œuvre de la grâce de Dieu envers Paul. Il était aussi appelé Saul. Il y en a qui font une grande distinction là, mais en tant que hébreu, son nom était Saul, mais envers les Grecs et les autres, il s'appelait Paul. Alors, et c'est la même chose. Mais ici, il est en train de montrer cette grâce surabondante, et c'est vraiment pour nous, lorsque cette grâce est révélée en nous, ça nous étonne. C'est une grâce, c'est une miséricorde étonnante, non seulement exercée envers Paul, mais aussi comme un exemple de la même grâce, et le mot là, verset 16, longanimité. Ça, c'est la patience de Dieu. Dieu n'est pas, il n'est pas comme certains prédicateurs aiment prêcher, Dieu est impatient, il veut sauver tout le monde, il court par-ci, par-là pour essayer de faire son œuvre. Non. Dieu opère toujours selon son plan divin. C'est un plan éternel, c'est sa volonté éternelle. Et quelles que soient les années que l'apôtre Paul a passées dans la fausse religion et dans cette œuvre qui opposait l'œuvre de Christ, il n'était pas appelé un moment plus tôt ou plus tard que ce que Dieu lui-même a ordonné. Alors, il regarde ça et il voit que ça, c'est un des attributs de Dieu, sa longanimité, la patience divine. Peut-être c'est une autre manière de regarder ça. Mais son cas était un cas typique, montrant jusqu'à quel point le Seigneur agit en grâce envers ses élus. Parce que quand il dit que je servis d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, donc Amédée, tu pourras dire la même chose, que Dieu était patient envers moi dans sa grâce. Aurélien pourrait dire la même chose, Koulibaly, même chose, moi-même, la même chose. Dieu n'est pas en train de sauver un d'une manière et un autre d'une autre manière. Le salut de Dieu est toujours par cette grâce imméritée et jusqu'au moment où Dieu lui-même daigne appeler un de ceux qu'il a élus et pour qui Christ est mort, il exerce cette patience divine. Cela veut dire qu'il ne nous juge pas. Quoi qu'il ait, il aurait pu. Nous sommes des pécheurs. Il aurait pu nous envoyer à l'enfer. Mais s'il ne nous a pas envoyé à l'enfer, c'est parce que il est un Dieu fidèle à lui-même, patient. Et par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, il sait d'avance le moment même qu'il doit appeler chacun de ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi si tu veux regarder un autre passage dans Galates chapitre 1, c'est un verset que le Seigneur a utilisé dans mon cœur depuis des années quand il a commencé à m'appeler à lui-même par sa grâce. Dans Galates chapitre 1, le verset 11, Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il n'a pas appris ça dans les instituts religieux dans lesquels il était formé. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, et voilà, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et il faut dire que chacun de nous, si nous sommes des enfants de Dieu, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire une voix qu'on entend dans nos oreilles, mais à travers la parole. Cette parole que nous lisons est la révélation de Jésus-Christ, parce que chaque verset de la Bible concerne le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas comme des hommes qui prêchent, parfois ils prêchent sur la moralité, parfois les devoirs du chrétien, parfois ceci ou cela. Non, chaque verset de cette Bible, la parole est Christ lui-même. Et c'est Dieu qui se sert de cette parole pour révéler Christ dans les cœurs de ceux qui lui appartiennent depuis l'éternité. Alors, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. C'est de ça que Paul parle quand il dit qu'il était auparavant un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent. Il faut se rappeler de l'état de Paul avant que le Seigneur ne l'ait arrêté sur la route de Damas. Il était en route pour aller emprisonner encore des chrétiens. Il avait assisté à la mort d'Étienne, le martyr. Et il faut dire que même dans sa position, parce qu'il dit qu'il était pharisien de pharisiens, Paul lui-même aurait joué un rôle majeur dans la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Il aurait été parmi le Sanhédrin qui a condamné Christ à mort. Alors, il était un homme violent dans ce sens. Mais Dieu, de son trône élevé dans les cieux, est revêtu de cette puissance irrésistible. Ouais, ça, c'est le Dieu de la Bible. Ce n'est pas un pauvre Dieu qui veut faire des choses, mais l'homme ne lui donne pas la permission. Ça, c'est drôle de penser que Dieu attend à l'homme de prendre sa décision avant que Dieu ne prenne sa décision. Non. Dieu, de son trône élevé dans les cieux, est revêtu de cette puissance irrésistible. Il est le Seigneur. Et il a intervenu pour convertir Paul par sa grâce. C'est ça qu'il est en train de dire dans le verset 13. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Et on peut transposer au lieu de judaïsme, on peut dire œuvre. J'étais plus avancé dans le message d'œuvre de l'homme. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Aujourd'hui, nous avons les dénominations. On a baptiste, on a pentecôtiste, on a catholique, on a protestant. Peu importe. Il était plus zélé pour les traditions de ses pères. Mais, voilà le verset clé, verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, notez bien, dès le sein de ma mère. » Cela veut dire que la main de Dieu était déjà sur lui dès sa naissance, quoiqu'il ne le savait pas. Voilà la patience divine, voilà cette longanimité dont il parle là. Que même lorsqu'il était en plein travail, lui-même, en opposition à Dieu et à l'œuvre de Christ, néanmoins la main de Dieu était toujours sur lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Mis à part dès le sein de sa mère et qui m'a appelé par sa grâce. Voilà l'intervention divine. Voilà le temps que Paul lui-même a été converti. C'est quand il s'est écrit plus à celui qui m'avait mis à part. Quand est-ce que un pécheur sera converti? Nous ne savons pas qui sont à Dieu et qui ne sont pas à Dieu. Nous rencontrons pas mal de gens dans le monde. Nous ne savons pas qui est brebis et qui est peut-être un bouc. Mais Dieu sait. Dieu connaît. Et souvent, c'est peut-être la personne qui s'oppose le plus à ce message que nous prêchons qui pourrait être, en fin de compte, un des élus de Dieu. Il ne faut pas qu'on se décourage parce qu'on a des gens, peut-être même dans nos assemblées, qui s'opposent. C'est peut-être difficile de comprendre parce qu'il y a pas mal d'autres assemblées où ils peuvent aller assister et c'est conforme à ce qu'ils croient. Mais voilà, ils continuent à revenir et je dois dire que c'est Dieu qui les ramène chaque semaine et ils s'opposent au message, mais voilà, ils sont là. Bon, c'est peut-être que c'est un élu de Dieu, mais dans sa patience divine, Dieu n'a pas encore agi en sorte de les attirer à lui, comme c'était le cas de l'apôtre Paul. Et il dit là dans le verset 16, « De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » On raconte souvent des gens, quand ils entendent le message de Christ, de la grâce de Dieu en Christ, ils disent « Bon, laisse-moi aller parler. » Conférer, si vous voulez, avec mon pasteur pour voir ce qu'il pense. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence que Dieu n'a pas encore ouvert son cœur. Parce que où Dieu agit, on n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Le cœur est tourné vers Christ et c'est l'Esprit de Dieu qui amène ce cœur à Christ et Christ est suffisant. C'est lorsque Christ est révélé dans le cœur. Alors ça, c'est la manière que le verset 16 décrit cette conversion de l'apôtre Paul. Mais je voudrais insister sur le fait, comme il le dit aussi dans 1 Timothée 1, 16, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il y en a qui aiment prendre le témoignage de Paul comme si c'était quelque chose d'extraordinaire par rapport à la manière que Dieu a agi typiquement dans le cœur de qui que ce soit qu'il sauve. On ne doit pas élever la conversion de l'apôtre Paul au-dessus de quelque conversion que ce soit. Parce que la manière que Dieu a tourné le cœur de Paul, c'est de cette même manière qu'il doit tourner le cœur de chacun de ceux qu'il a ordonné au salut depuis l'éternité pour qui Christ est mort. Alors, je vais m'arrêter là pour voir s'il y a quelques commentaires que vous pourrez avoir. Si le Seigneur vous a donné aussi de penser sur ce verset.
Oui, en tout cas, c'est bien.
Alors, c'est pour dire que Paul est un homme, un modèle, non seulement de miséricorde, mais un modèle pour tous ceux que Dieu amène au salut. Il sert d'exemple. Et ce n'est pas en lui-même. Ce n'est rien en lui-même. Nous ne voyons pas Paul ici en train de parler de sa foi ou bien de son obéissance à Christ. Non. Toute la gloire revient à Christ seul.
Voilà, essayez alors.
Oui, oui.
Allô?
Oui, on t'écoute. Oui, alors on t'écoute.
Oui, tout à fait. Et c'est justement ce que je vois de particulier dans les prédicateurs fidèles et dans le témoignage de l'apôtre Paul ici. Vous avez remarqué que un prédicateur fidèle ne présente pas Dieu et Christ aux gens comme quelqu'un qui attend d'eux qu'ils connaissent quelque chose, qu'ils agissent, qu'ils fassent quelque chose, et après, la grâce de Dieu va faire le reste et il sera réellement un enfant de Dieu. De la même manière, cela transparaît dans la façon dont il témoigne de sa conversion et de Christ. Il ne témoigne pas de sa conversion ici par rapport à Dieu, à la grâce de Dieu, comme quelqu'un qui a fait quelque chose, ou comme si on lui avait dicté quelque chose à faire, et après la grâce de Dieu est venue. C'est ça la particularité. Vous voyez, il a dit la grâce de Dieu a surabondé avec la foi qui est en Jésus-Christ. Il a dit j'ai obtenu miséricorde. Et ensuite, il précise ici que Dieu veut faire voir toute sa longanimité. Et la seule façon, je dirais, pour Dieu réellement de révéler sa grâce, ce n'est pas de dicter ou bien de montrer aux gens des choses qu'ils doivent connaître ou bien des choses qu'ils doivent faire, mais de montrer la surabondance de sa grâce. Donc Paul parle de Dieu et parle de ce que Dieu est, a fait, pour que finalement lui, il se retrouve dans la foi plutôt que dans les œuvres. Mieux, pour que finalement il finisse par renoncer à tout à cause d'une connaissance qui est excellente. Et c'est justement comme ça que nous devons parler de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prédicateurs, ils s'adressent aux gens ou parlent aux gens comme s'ils doivent arranger quelque chose d'abord et la grâce va venir. Et d'autres s'imaginent que quand ils ont reçu la grâce de Dieu, ils doivent s'efforcer de la mériter après. Mais Dieu n'agit pas dans sa grâce en enlevant le péché ou les mauvaises choses, ouais. Dans le sens que il faut que ça s'enlève d'abord avant que lui, il ait de la puissance.
C'est ça.
Mais au contraire, tout homme est avec les mêmes péchés qui se retrouvent dans les autres. Et même la Bible ne regarde pas l'homme pécheur comme étant quelqu'un qui commet de temps en temps des péchés simplement, mais quelqu'un qui est péché. Et je vois les gens, par exemple, si nous lisons dans 1 Corinthiens 6, verset 9, là, où l'apôtre Paul disait, et c'est ça qu'il est en train d'exprimer ici aussi, il dit dans 1 Corinthiens 9, 6, que ne savez-vous pas que les injustes, on n'a pas dit ceux qui commettent de temps en temps de l'injustice. Et une seule fois tu as commis de l'injustice, tu es entièrement de la tête aux pieds injuste. Et l'évangile doit être présenté comme une parole certaine et entièrement. On n'a pas à prendre une partie, tu dois régler une partie dans l'homme. Parce que c'est l'homme entier qui est injuste. C'est l'homme entier qui est péché. Et le péché qu'il est se trouve dans tout homme. Et aucun injuste n'héritera le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, parce qu'ils commettent de temps en temps de l'impudicité. Une seule fois, tu es de la tête aux pieds impudique, ou si tu ne l'es pas, tu es péché parce que tu peux être idolâtre, ou encore adultère. Il ne s'agit pas de commettre d'avoir adultère en faisant des petits poètes adultères, mais si quelqu'un l'a commis à ton arrogance, et il est entièrement adultère, toi aussi tu es entièrement arrogant. Et vous êtes tous péchés devant Dieu.
Ouais.
Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Et il ne s'agit pas de boire de temps en temps de l'alcool, mais d'être entièrement ivrogne. Ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. On n'a pas dit c'est ce que vous faisiez de temps en temps. Tout comme si vous êtes arrangé pour ne plus faire, et maintenant la grâce à sa place. Vous étiez de la tête aux pieds entièrement ces choses. Quelques-uns d'entre vous, ça veut dire qu'il y a certains là qui n'étaient pas justes, ne sont pas justifiés. Cette grâce n'a pas été accompli par la personne de Christ exprès pour eux. Donc, eux, on ne peut pas dire d'eux qu'ils sont, étaient et continuent d'être des chercheurs. C'est pourquoi on a dit quelques-uns, hein, où vous étiez ça. Mais comment se fait-il qu'ils ne sont plus ça maintenant? Ce n'est pas la substitution. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc en réalité, il faut une substitution parfaite, entière. Donc en réalité, Christ, dans son entièreté, de la tête aux pieds, a été justice pour nous.
Ouais.
Et sommes également dans notre entièreté péché, même si dans la pratique nous n'accomplissons pas les autres, nous sommes péchés. C'est en étant péché et justifié, lavé par l'Esprit de notre Dieu, que quelques-uns d'entre eux, disait l'apôtre Paul, ne sont plus ces choses.
Ouais.
Ainsi, c'est, Paul dit que la grâce a surabondé. Ça veut dire que vous étiez entièrement péché,
ouais.
Même si c'est plusieurs ou un seul péché qui fait de vous péché. Il n'y a qu'une seule chose qui vous a réellement sauvé. C'est que vous êtes entièrement justifié. Vous êtes même justice de Dieu, mais pas la personne de Jésus-Christ. Donc la personne de Jésus-Christ même est la grâce,
ouais,
qui a surabondé,
ouais,
pour laver, purifier, sanctifier la personne de l'homme que Dieu a élu en Christ pour qu'il soit pas simplement quelqu'un qui a réformé sa vie, qui a amélioré sa vie, pour que Dieu puisse ajouter la grâce. Donc, la grâce vient en surabondance pour faire disparaître pratiquement notre personne dans sa beauté, dans sa justice, dans sa perfection ou bien dans son caractère meilleur par rapport aux autres. Car on ne peut pas voir, par exemple, le soleil et commencer par voir autre chose et l'apprécier. De la même manière, l'apôtre Paul, en prêchant l'évangile, ne leur prêche pas quelque chose qu'ils vont arranger pour que la grâce ait sa place, mais ce que la grâce est. Et quand la personne se voit entièrement en Jésus-Christ, seul par ce seul nom, sa personne et son œuvre, il renonce à sa personne et son œuvre. Et quand il veut parler de sa conversion, il va parler, n'est-ce pas, de ce que ce Christ a fait par rapport à ce que lui qui est. Ainsi, il a dit, mais j'ai obtenu miséricorde et la grâce a surabondé. Vous voyez ce qu'il a dit, ça m'intéresse. Et de la même manière que nous prêchons aux gens, ça va transparaître dans la manière dont nous parlons de notre conversion.
Mm.
Au lieu de dire, ah, j'étais pécheur, je commettais la terre, maintenant j'ai laissé, et Dieu m'a sauvé. Ça, c'est la signe que la personne n'a jamais vu encore, la véritable grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, quand c'est vu, c'est un renoncement de soi entier. Même dans sa vie mauvaise d'ancien et dans sa vie meilleure d'aujourd'hui. Et la personne qui est dans la grâce de Dieu se voit entièrement en Jésus-Christ, et par rapport à Dieu, il se voit comme le pire parmi les pires, il a été justifié par la grâce.
Ah ouais.
Vous voyez, donc si quelqu'un ne prêche pas véritablement l'évangile, non seulement dans la façon dont il invite les gens à croire la grâce de Dieu, au lieu de les ordonner par la puissance de Dieu, à voir, à croire ce qu'ils voient et qu'il leur est révélé, et comment par leur montrer des choses à faire pour mériter la grâce. Eux aussi, quand ils commencent par faire la chose, ils disent, j'étais converti parce que le prédicateur m'a dit de faire ceci, et je suis touché, j'ai abandonné, et voilà qui s'est venu. Mais c'est pratiquement faux parce que c'est la personne, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, qui facilite réellement le renoncement total de sa personne et la foi. Il y a aussi le renoncement de soi-même pour se confier en quelqu'un d'autre que soi.
Ouais.
Lorsqu'on dit quelque chose, on ne dit pas que des gens sont méritants, qui même se glorifient de leur conversion et de la raison pour laquelle la grâce est venue, ou après, pas douter aux autres ce qu'ils vont faire pour mériter la grâce. Mais c'est impossible parce que c'est la surabondance de la grâce qui conduit au renoncement total de soi et à et l'impuissance même de cette puissance extérieure qui nous rendait esclaves. La mort, la maladie, le péché, la condamnation, la culpabilité du péché, l'indignation du péché, vous voyez, la conscience du péché, ces choses ne s'enlèvent pas facilement. Il faut se retrouver en une autre personne. Se voir à travers cette personne comme Dieu avec celui-là, et l'homme ne peut plus jamais dicter la loi, les œuvres ou l'homme aux autres, ou se glorifier de ce qu'il a pu faire pour que la grâce ait sa place. Et c'est très important pour nous, vraiment, de remarquer que cela est de rendre grâce à Dieu du fait qu'il agit avec sa personne là où rien ne peut imaginer qu'il peut agir. Et maintenant, ce qu'il est dépasse ce qui était là. Et c'est le renoncement.
Ouais.
Voilà.
Non, tu as souligné le point clé, frère, et c'est ça. Il y en a beaucoup qui disent, oui, j'ai péché et j'ai laissé le péché, ce qui est le mensonge. Celui en qui Christ est révélé ne dira jamais, j'ai laissé le péché, parce que Paul lui-même dit que Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs. Il dit, donc je suis le premier toujours. Alors, comme l'homme, ce n'est pas seulement pour ce péché-ci ou ce péché-là, mais le fait d'être pécheur, c'est ça la confession. Mais par contre, comme tu disais, Christ comme substitut, c'est lui, c'est sa personne, c'est son œuvre qui est notre justice devant Dieu. Non pas ce que nous faisons, mais ce qu'il a accompli. Ouais. Alors, c'est bien, bien, bien dit. Bien souligné.
Allô?
Oui.
Allô?
Oui, hein? Oui?
Vraiment, je voudrais dire aussi que vraiment ces enseignements, moi personnellement, m'ont beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'ai été enlevé d'une obscurité, alors qu'il était resté pour moi toujours un voile. Voilà pourquoi, quand la Bible dit que cherche d'abord la justice de Dieu et tout le reste sera donné, réellement, comme avant je croyais, la justice de Dieu, là, j'avais vraiment toujours pensé que c'était la recherche du respect des préceptes de Dieu. Et Dieu m'a aidé vraiment avec ses enseignements à savoir que c'est cette justice-là, c'est le Christ lui-même qu'on doit chercher.
Amen.
Et c'est lui qui est saint. Alors, il y a longtemps que je prêchais. Quand on dit de chercher la justice de Dieu, il faut s'allier à des respects des dogmes, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère. Bon, la justice pour moi, c'était l'application des commandements de Dieu. Réellement, depuis que j'ai commencé ces études-là, j'ai vu que la chose de sa solitude était surprise. Et cet enseignement-là, vraiment, m'a aidé à comprendre ce petit passage qui m'a beaucoup aidé. À savoir que cette justice, c'est une justice.
Amen.
Ouais.
C'est très content. Oui. Merci bien. Merci pour ce témoignage.
Merci.
Oui, vous voyez que, enfin, ce passage commence avec les profondeurs du péché, de l'incrédulité de l'apôtre Paul dans le verset 13. Et puis, ça termine au sommet, si vous voulez, en rendant gloire à Dieu dans le verset 17. Parce que lorsque nous devons parler de nous-mêmes, nous ne pouvons parler que d'être dans cet état de péché. Toujours, nous sommes pécheurs. Mais quand on parle du salut, ce n'est pas ce que j'ai laissé ou bien où je me suis transformé, ou bien j'ai commencé à pécher moins. J'entends certains parler comme ça, comme le frère Aurélien a déjà dit. Déjà, par leur confession, ils démontrent qu'ils sont toujours dans les ténèbres. Parce que ce n'est pas le témoignage de Paul, ni de quiconque, que de ceux que Dieu sauve par sa grâce. Dans le verset 17, c'est une doxologie. C'est comme on a une chanson et ça termine dans cette doxologie. Et nous voyons ça non seulement dans le verset 17, mais ailleurs dans d'autres passages des écrits de l'apôtre Paul, où il ne peut que donner toute la gloire à Dieu. Il contemple la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu dans le salut du pécheur. Mais seulement quelqu'un qui est l'objet de cette grâce en qui Dieu a révélé le Seigneur Jésus-Christ ne peut dire, comme nous lisons ici, au roi des siècles. Tu vois, déjà cette manière de décrire Dieu, le monde religieux a une tendance de croire et prêcher comme si le monde est divisé entre deux puissances. Il y a Dieu et puis il y a le diable. Et toujours il y a cette lutte pour le pouvoir, comme on voit parmi les nations ou bien les politiciens. Mais tel n'est pas le cas. Il est décrit ici comme le roi des siècles. Donc cela veut dire qu'il a toujours été le roi depuis l'éternité et il continue d'être le souverain au-dessus de toutes les affaires des hommes, de toute nation, de quelques créatures que ce soit, c'est Dieu qui règne. Ouais, et ça c'est le fondement. Je me souviens à Ganiwa, une fois, il y avait une tempête et le frère Amédée pourra bien se situer quand je parle de la mission baptiste méridionale qui a construit un grand temple là-bas. Et on vient de terminer la construction quand cette tempête a enlevé le toit. Et le prédicateur à l'époque, j'ignore son nom, ce n'est pas important, mais le dimanche suivant, ils ont dû se réunir là sans toit. Et le prédicateur s'est levé pour dire que non, parce qu'à l'autre côté de la rue, il y avait une maison de prostitution. Alors, il avait l'audacité de dire que Dieu, en réalité, voulait détruire cette maison de prostitution, mais en fait, ça manquait et ça enlevait le toit du temple. Donc, on devait prier pour que Dieu reprenne le pouvoir et faire son œuvre. Alors, quand j'entendais ça, je me suis dit, voilà, il est en train de déclarer un Dieu impuissant. Un Dieu qui cherche à faire certaines choses, mais malheureusement n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Tel n'est pas le Dieu de la Bible et tel n'est pas la confession d'un enfant de Dieu. Ici, c'est au roi des siècles immortel. Cela veut dire on ne peut jamais tuer ce Dieu-là de la Bible. Oui, les gens s'opposent. Mais c'est Dieu qui est toujours roi et qui règne invisible. Cela veut dire qu'il agit où il veut et l'homme ne peut pas dire oui, il est ici ou il est là. Alors, il est invisible, mais seul Dieu. Le mot Dieu veut dire magistrat. C'est le magistrat suprême qui juge comme il veut. Il dit, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, si tel n'est pas le témoignage de quelqu'un au sujet de Dieu, donc il est toujours dans l'ignorance et dans la rébellion. Alors, ça c'est la doxologie. Et c'est la même chose que nous voyons, par exemple, dans Romains chapitre 11, et du verset 33 à 36. Pour moi, la Bible, les versets de la Bible d'une partie confirment les versets d'autre partie. Il n'y a pas de conflit dans la Bible. Et dans Romains chapitre 11, à partir du verset 33, voilà la manière que encore, ça c'est poussé par l'esprit. L'homme ne peut pas rendre ce témoignage de lui-même. Et regarde la manière, que Paul le décrit, c'est « aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ». On entend toujours parler de la science de l'homme. Non, la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Nous-mêmes, nous devons faire attention en regardant certaines situations pour dire oui, que Dieu est en train d'agir par-ci ou par-là. Non, nous ne sommes pas des juges. Nous ne pouvons pas savoir. Nous devons rester la bouche fermée et observer, les yeux ouverts, pour voir comment Dieu agit de jour en jour, même dans nos vies personnelles. Souvent, nous prenons certaines décisions pensant que oui, c'est Dieu en train d'agir par ci ou par là, et puis il nous arrête. Oui, parce que ces voies sont incompréhensibles. C'est ça le sens quand il dit invisible, seul Dieu. Alors, nous vivons de la vie qu'il nous donne. Et il dit dans le verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur? Voilà la question. Ou qui a été son conseiller? Il faut dire que notre nature pécheresse est toujours de vouloir conseiller Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de conseiller leur Dieu dans leur prière. Dieu fait ceci. Ils exigent de Dieu une certaine action. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Qui, verset 31, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en tout? Voilà la manière que la religion encourage les gens. Il faut donner à Dieu d'abord ton cœur, et puis ensuite, en retour, il vous donnera la vie éternelle. Il faut vivre une vie d'obéissance d'abord, et en retour, il va vous bénir. Ça, ce n'est pas le message de la Bible. Si nous avons même une obéissance quelconque à donner à Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a donné cette obéissance. Autrement, nous vivons avec un cœur de rebelle tous les jours. Alors, verset 36, c'est la doxologie en romain, comme nous lisons ici dans 1 Timothée, où il dit, c'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire, voici ça, dans tous les siècles, le roi, au roi des siècles, dans tous les siècles, amen. Le même Dieu que nous avons la grâce maintenant d'adorer, aujourd'hui, c'est le même Dieu qui s'est révélé à Adam au début de la création, et à Moïse, à David, etc. Le roi des siècles. À lui la gloire, à lui seul la gloire, Dieu seul, lui seul, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, quelle merveilleuse doxologie, à l'honneur et la gloire de Dieu, pas de l'homme, mais de Dieu.
En fait, nous devons apprendre même à vivre par cette doxologie et cette manière de percevoir Dieu par la foi. En réalité, vivre la foi, ça doit être ça. C'est vivre avec l'invisible, vivre avec celui qui est le roi des siècles et seul Dieu, et lui donner tout l'honneur. Si le sauveur se pense être plus glorieux que celui qui est le sauveur, c'est vraiment un problème. Alors, on ne doit pas se glorifier même de son salut, plus que de celui qui nous a sauvés.
Ah ouais.
Effectivement, c'est la confession véritable et la prédication de Christ doit exalter et mettre l'immortalité au-dessus de tout. Et amener les gens à rechercher cette immortalité. On ne peut pas prendre quelque chose qui est mortel, quelque chose qui est corruptible, quelque chose qui, même si c'est bon aujourd'hui, sera mauvais demain, et se voir dedans, et se glorifier, se prendre pour Dieu, au point de renoncer à la foi. Parce que la foi doit demeurer invisible, et doit demeurer une démonstration, avec une ferme assurance de ce qu'on espère. Et donc, quelque chose de visible, dans laquelle on se glorifie ou même parfois recommander aux autres d'avoir pour être aussi enfant de Dieu. Donc, le croyant doit vraiment vivre dans cette véritable doxologie. Et quand Paul parle de l'évangile, de la gloire de Dieu, du salut, de la conversion, il est parfois obligé d'en arriver là pour magnifier la puissance qui a fait que le sauvé était sauvé, demeure sauvé, a été sauvé et a demeuré sauvé pour toujours. C'est ça réellement l'espérance du croyant. Quiconque se pose sur autre chose n'aura jamais le courage d'affronter la mort à cause de Christ, de braver l'opposition ou la majorité qui va toujours au contraire à la vérité à cause de Christ. Mais lorsqu'on visualise continuellement et le roi des rois, on ne peut plus voir un roi passager pour remettre en cause ce que Dieu est, Christ est et que nous sommes. L'immortel. On ne peut plus regarder même sa mort au point d'oublier que celui qui est la résurrection et la vie a surmonté la mort. Seul Dieu. Et on ne peut même plus non plus donner honneur à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, si ce n'est celui par qui on est devenu un avec Dieu. Christ qui est en même temps Dieu. Effectivement, Paul dit, c'est de lui vraiment. J'aime beaucoup ce genre de doxologie qui remplit le cœur de tout croyant de joie, même dans les 10 épreuves. Si on peut chaque fois dire, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire en tous les siècles et assurer que c'est Amen qu'il soit en toi ainsi. Je crois qu'on va voir la faiblesse de ce qui nous préoccupe aussi tant aujourd'hui et que nous voulons mettre en but devant les hommes. Pour que ça les préoccupe aujourd'hui. Parce que c'est ceux qui recherchent la gloire, l'immortalité, la vie. C'est à eux que Dieu a réservé réellement la vie éternelle.
Ah oui.
Et si Paul affirme cette doctrine et confirme en disant Amen, Dieu a dit oui, Christ a dit oui, et nous disons oui, oui. Nous affirmons le oui de Dieu et le oui de Christ qui est notre oui. Et je crois que c'est merveilleux. C'est ça le témoignage de la foi, et c'est ça qui doit être prêché, c'est ça qui doit être vécu. Jamais le visible ne doit influencer l'invisible qui demeure dans cette réalité, la vérité. Vraiment, je reprends à Dieu réellement et je prie que ouvre les cœurs pour que ce que nous voyons là, tout le monde voit, pour que réellement il y ait un vrai combat de la vie.
Ouais.
Pour la foi et
pas
la foi à la gloire de Dieu seul.
Ouais. Voilà. Et même le mot Amen, comme tu le dis, c'est un terme que les gens utilisent profanement, mais cela veut dire qu'il en soit ainsi. Cela veut dire on ne voudrait jamais changer en quoi que ce soit qui Dieu est dans toute sa gloire. Alors quand on prêche Dieu de cette manière, et il y en a qui disent non, mais ce n'est pas ce n'est pas Dieu tel que je le connais, c'est quelqu'un qui ne peut pas dire Amen. Ouais. La Bible, de pouvoir dire Amen, c'est de se soumettre à sa volonté. Si Dieu détermine de sauver celui-ci, mais de laisser l'autre, ça c'est son choix. Tu vois, l'homme veut avoir son choix, mais il ne veut pas que Dieu ait son choix. Et de pouvoir lire quelque chose comme ça, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Cela veut dire qu'il en soit ainsi. Et puis la bouche est fermée.
Voilà.
Alors, c'est important de comprendre cela. Frère Amédée, tu es un bon écouteur aujourd'hui, mais tu n'as pas encore ajouté quelques pensées là-dessus.
Oui, je voulais ajouter quelque chose. Ce qui impressionne beaucoup dans les études, là,
C'est qu'en lisant les Écritures, on voit bien le chose Paul, l'apôtre Paul, insister sur le mot fidélité. Voilà. Dans toutes ces épîtres, tu vois, quand on lit, il aime beaucoup insister sur le mot fidèle, être fidèle. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Parce que ce qu'on voit concernant les pasteurs, c'est-à-dire que, ou les prédicateurs, il ne suffit pas que un pasteur ou un prédicateur remplisse simplement une fonction de pasteur ou de prédicateur, ou bien accomplisse les devoirs de son ministère, ou même qu'il soit un bon intendant s'il n'est pas un serviteur bon et fidèle, c'est-à-dire fidèle à la parole de Dieu, à l'évangile, et à ce que Dieu lui a confié, c'est-à-dire ce à qui il prêche. Voilà. Donc l'apôtre Paul, vraiment, il fait bien de le souligner. Parce que tous ceux qui connaissent la vérité et la prêche ne sont pas nécessairement fidèles. Mais seulement ceux qui écoutent, bien ceux qui étudient, et qui prient, qui travaillent, et donnent tout leur cœur et toute leur vie à cette glorieuse vocation. Alors, quand on regarde dans le verset 12, effectivement, Paul dit que je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, votre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Alors donc, Paul aussi en parle dans le livre de 1 Corinthiens, la première épître de Corinthiens, s'agissant aussi de la doctrine qui doit être prêchée fidèlement.
Ouais.
La vraie doctrine qui doit être prêchée fidèlement, et Paul le dit ici dans 1 Corinthiens, voilà. Oui, 1 Corinthiens 3, verset 11, dit pardon, car toute personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée.
Ouais.
Voilà. Alors, donc, l'apôtre Paul et les, quand on voit dans ce passage-là, on voit que Paul et les apôtres, les autres apôtres, ont posé la fondation qui est Christ. Donc, les pasteurs qui suivaient Paul et les apôtres prêchaient l'évangile de la grâce, les vérités éternelles de l'évangile qui concordent avec le fondement, hein, qui produisaient des fruits durables et permanents tels que de l'or, de l'argent et des pierres précieuses.
Ah
ouais. On a constaté que le résultat, on voit que le résultat de leur ministère résistera au temps et au fait du jugement. Mais on constate aussi que, pour illustrer aussi, les autres prédicateurs sont comparés à du bois, de la paille, du chaud, qui ne résisteront ni au temps, ni au feu.
Ouais.
Voilà, cette illustration, quand Paul lui parle, il lui demande vraiment d'être fidèle, de prêcher fidèlement l'évangile. Voilà. Donc moi, c'est verset qu'on voit dans 1 Timothée. Ça nous fait vraiment,
ouais.
Ça fait vraiment du bien,
ouais.
d'encourager les uns et les autres, de prêcher fidèlement l'évangile,
ouais.
Et nous aussi, de recevoir le message fidèlement.
Ouais. C'est bien reçu. Parce qu'il y en a qui se considèrent fidèles parce qu'ils sont des hommes avec une certaine moralité. Ils disent qu'ils ne sont jamais tombés dans le péché. Ça fait longtemps qu'ils restent au poste et qu'ils prêchent. Voilà, c'est de cette manière qu'ils se jugent fidèles. Mais comme tu le dis, ce n'est pas le sens du mot. C'est d'être fidèle en Christ. Et un prédicateur est comme, à l'époque, le héros. C'est le messager du roi. Le courrier qui allait par-ci, par-là, annoncer la voie la volonté du roi. Un héros fidèle n'allait pas changer les paroles du roi pour aller annoncer quelque chose pour plaire à la population. Non, il allait annoncer exactement ce que le roi a décrit. Oui, c'est de cette manière que, par la grâce de Dieu, nous sommes fidèles à cette parole. Nous n'essayons pas de changer la parole pour plaire aux hommes. Et notre désir, c'est de donner toute la gloire et l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ce n'est pas seulement à Dieu, mais à Jésus-Christ. Ouais. Alors, bien, le temps a déjà passé. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Et que le Seigneur nous donne cette grâce de transmettre ce message là où nous sommes. Le frère Amédée en France, frère Koulibaly en Côte d'Ivoire, le frère Aurélien au Bénin, et puis moi aussi aux États-Unis. C'est une bénédiction réelle de pouvoir avoir cette communion, cette fraternité autour de la grâce de Dieu, sa parole en Jésus-Christ. Et je le remercie vraiment pour la technologie qui nous permet de nous retrouver chaque semaine comme cela. Alors, je vais terminer par la prière et puis que le Seigneur bénisse chacun de vous. Bien. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion de nous retrouver autour de ta parole. Et je prie, Seigneur, que tu prennes cette parole et l'imprègne d'abord dans nos cœurs et afin que Christ soit tout en nous. Et nous savons que nous ne sommes que des pécheurs tous les jours. Ce n'est pas même d'avoir l'Esprit de Christ en nous qui faire en sorte que nous péchons moins. Non, nous, par la lumière de ton Fils et de ta parole, nous retrouvons autant des pécheurs qu'auparavant. Et nous confessons cela, que nous ne sommes rien devant toi. Mais Seigneur, que en voyant par ta grâce, avec les yeux que ton Esprit donne, que c'est la personne de Christ, c'est son œuvre accomplie au Calvaire, c'est son sang versé, c'est cette justice que tu considères à notre égard si nous sommes tes enfants. Prière, Seigneur, c'est que tu nous rends fidèles à ce message, à Christ, de l'annoncer tel qu'il est dans la parole, parce que Christ est fidèle et c'est par son esprit que nous vivons, c'est par son esprit que nous témoignons. C'est par ton esprit que nous annonçons aux autres pécheurs cette grâce. Alors que tu bénisses chacun dans le lieu où tu nous as placés. Et réellement, comme le verset le dit, que tout l'honneur et la gloire reviennent à. C'est au Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen.